Objectif Santé, Karen Taïeb.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et c'est vrai que moi aussi, je rends hommage à notre chère amie Rika Zaraï qui vient de nous quitter. C'est une tristesse infinie. Voilà, elle qui avait cette intelligence humaine et qui était tellement proche des gens et soucieuse aussi des maux de notre société. On l'aimait tellement. Et on pense évidemment à son mari Jean-Pierre. Karine Lacombe, bonjour. Vous êtes professeure à l'hôpital Saint-Antoine, vous êtes infectiologue, vous êtes chercheuse et vous avez été au cœur de cette crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui. Mais vous étiez au début et vous venez de publier ce livre avec Fiamma Luzzatti, une infectiologue au temps du corona, la médecin, que je montre à nos auditeurs et auditrices, puisqu'on est filmé. Un très joli livre, en fait, un reportage dessiné de ce que vous avez vécu dès les premiers instants. Et c'est quasiment ce film. Enfin, j'ai envie de dire ce film.
Oui, c'est vrai.
C'est un film.
C'est un récit. C'est un récit graphique,
un
absolument.
Récit graphique qui nous plonge, en fait, qui nous fait revenir à un an presque, puisque vous étiez comme tout un chacun. Vous fêtiez finalement cette nouvelle année. Et en fait, vous êtes rendu compte très rapidement que quelque chose n'allait pas tourner rond dans cette année 2020.
En tout cas, c'est vrai que dès la fin du mois de décembre, et moi en particulier le 31 décembre, j'ai été alertée, comme beaucoup de mes collègues, par des mails d'information, de sites de médecine qui traquent un peu les nouveaux virus, les nouvelles bactéries. Et on a vu passer ces premières informations sur cet agent infectieux inconnu auparavant, qui
s'est
donnait
vissé
des pneumonies.
En Chine, en fait. Qui s'est vissé
absolument,
dans cette petite,
qui s'est vissé en Chine, tout
voilà,
à fait,
dans cette ville de Wuhan.
Dans cette région du Hubei, à Wuhan.
Ouais.
Et on a été, je dirais pas qu'on a été inquiet dès le début. On a été plutôt interpellé, après un peu préoccupé, en attendant de voir comment ça allait se passer. Donc c'est ce que j'essaie de raconter sur les premières semaines avec ce récit graphique, et jusqu'à ce que l'on devienne franchement inquiet, et en particulier quand on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des cas en France, et en particulier l'explosion de l'épidémie en Italie, très contemporaine de ce qui s'est passé dans le Grand Est de la France.
Justement, professeur Karine Lacombe, à quel moment vous êtes dit « là, ça commence à m'inquiéter » Parce que très vite, vous avez compris que c'était un SARS, un fameux qui ressemblait déjà à quelque chose qu'on avait connu dans les années précédentes. Mais à quel moment vous êtes dit « là, je sens que ça va être quelque chose de plus grave que ce qu'on imaginait »
Alors, c'est vrai que dans le courant du mois de janvier, on a très rapidement su que le virus responsable de ces pneumonies atypiques, c'était un virus qu'on a très vite appelé le SARS-CoV-2, qui était un parent du SARS-CoV, qui a été responsable de cette épidémie de SRAS, donc syndrome respiratoire aigu, qui a sévi au début des années 2000. Avec une grosse différence toutefois entre ces deux virus, c'est que l'agent du SRAS ne se transmettait pas qu'en sans symptômes, alors qu'on s'est vite aperçu que lui, le SARS-CoV-2, donc qui est responsable de la COVID-19, se transmettait très probablement entre personnes asymptomatiques. Et à partir du moment où on a compris ça, dans le courant du mois de janvier, plus particulièrement fin janvier, début février, on s'est dit là, ça va être extrêmement difficile de contenir ce virus en Chine. Et effectivement, il était déjà trop tard, le virus avait déjà atteint toutes les parties du monde, et en particulier l'Occident.
Et notamment l'Italie, puisque c'est là où vraiment ça, tout commence. Et c'est tellement proche de nous, finalement. Autant la Chine, c'était très éloigné. On se disait, quand on voyait ces gens mourir, finalement, il y a des images assez atroces qui nous revenaient par les réseaux sociaux. On disait, c'est très loin de nous. Mais quand ça s'est approché si près de la France et de l'Italie, là, on a compris qu'il y avait quelque chose d'une future pandémie.
En fait, on a toujours l'espoir, même si rétrospectivement, on peut se dire que c'était un espoir qui était vain. On avait toujours l'espoir que la transmission, finalement, entre personnes asymptomatiques serait probablement faible. Et qu'en identifiant, donc en diagnostiquant, en traçant et en isolant les quelques premiers cas de pneumonie, pandémie, mm-hmm. on arriverait à contenir le virus. Donc c'est ce qui a été fait effectivement au début en France, hein, avec le premier foyer qui était en Haute-Savoie, mm-hmm. et puis ces foyers dans le nord de Paris. Mm-hmm. Mais à partir du moment où il y a eu une explosion des cas dans le nord de l'Italie et qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait ce grand rassemblement évangélique du côté de Mulhouse, à partir duquel a disséminé l'infection dans un grand nombre de régions, et en particulier en région parisienne, très vite, on s'est dit, ça va être hors de contrôle.
Et ça l'a été, professeur Karine Lacombe, au début, hors de contrôle, parce que vous racontez, on vous voit dessiner dans ce livre que je rappelle donc à nos éditeurs, un livre paru chez Stock, La Médecin, un livre qui est raconté à travers des dessins. C'est vrai que l'hôpital déjà était en grande difficulté. On a fermé des lits, il y avait une souffrance déjà au travail du personnel. Là, il a fallu agir très vite, très fort, malgré ces moyens qui étaient déjà contraints à l'hôpital. Comment vous avez fait, vous en tant que professeur et infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine, il a fallu mettre les bouchées doubles.
Absolument, c'est vrai que cette pandémie est arrivée à un moment critique pour l'hôpital où on était en profonde mutation depuis des années et des années, puisque les options qui avaient été prises pour transformer l'hôpital, c'était de diminuer les lits d'hospitalisation et d'essayer de développer au maximum ce que l'on appelle la prise en charge ambulatoire. Donc le plus d'interventions possible en ambulatoire, le moins d'hospitalisations possibles, des hospitalisations très courtes, etc. etc. Parce que également le sens de la médecine va dans une médecine vers une médecine ambulatoire, mais aussi clairement pour des raisons de gestion et des raisons budgétaires. Donc l'épidémie est arrivée au moment où on était en grande crise de l'hôpital. Ça faisait plusieurs mois que le personnel soignant demandait plus de moyens. Et donc, quand on a été confronté à la prise en charge de cette pandémie, eh bien, on s'est aperçu que quand on avait une menace sanitaire majeure, c'était de lits d'hospitalisation dont on avait besoin. Oui. De lits d'hospitalisation, de personnel de soins.
De la COVID.
Exactement, de personnel de soins, de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'agents hospitaliers. Oui. Tout ce personnel-là que l'on avait diminué de façon drastique au fil des années. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on s'invente, qu'on innove, qu'on s'adapte et qu'on se transforme extrêmement rapidement. Et on a essayé de montrer à travers le livre...
D'où les applaudissements à tous les soignants, parce qu'on a bien compris que la situation était inédite, qu'elle était très difficile, et que tous à l'hôpital, vous avez tous donné le maximum de vous-même. On le voit bien même à travers votre livre. C'est même la vie privée qui en prend un coup aussi, parce que il y a une urgence à régler, parce qu'il y a des gens qui risquent de mourir. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. On est à plus de 60 000
morts
en France. Oui. D'ailleurs, on dit que la deuxième phase de Covid a fait plus de morts que la première.
Elle a fait plus de... Effectivement, donc à peu près autant de morts, puisqu'il y avait 30 000 morts à peu près à l'issue de la première vague. Mmh. Et puis actuellement, on est un petit peu plus de 60 000. Mais surtout, ce que l'on n'arrive pas encore à mesurer et qu'on verra sur les 1 ou 2 ans à venir, ce sont les morts indirectes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas pu avoir de soins parce que les hôpitaux ont été tellement engorgés par l'arrivée des patients Covid qu'il y a des tas de pathologies qu'on n'a pas pu prendre en charge à temps, en particulier les cancers cardiovasculaires, etc.
Donc, les gens qui n'ont pas pu se soigner parce qu'en fait, il y a eu un engorgement tel de l'hôpital qui était finalement réservé à la gestion de cette Covid, que d'autres pathologies n'ont pas pu être prises en charge. Et forcément, ça va entraîner en cascade des conséquences dont on n'a pas encore...
Un retard de prise en charge et ensuite une perte de chance, en fait, en particulier en cancérologie.
Parce qu'il fallait donc des lits de réanimation. Et souvent, on dit, dans des dîners en ville ou dans des cafés du commerce, mais c'est pas le cas puisqu'on ne peut plus se réunir ni en ville ni dans les cafés. Mais en tout cas, on dit souvent, mais pourquoi on n'ouvre pas des lits? Mais en réalité, professeur Lacombe, ouvrir un lit, c'est pas seulement mettre un lit.
Oui, c'est-à-dire que les personnes qui disent ça témoignent d'une grande méconnaissance du système hospitalier et de la façon dont on forme le personnel soignant, les médecins, les infirmières,
etc. Combien de personnes autour d'un lit de réanimation?
Beaucoup. Écoutez, alors le chiffre précis, je ne sais pas, mais c'est au moins 4-5 personnes. Mmh. pour un lit. Oui. Donc, et indépendamment du fait de mettre un lit, il y a aussi tout le matériel. Mais encore, le matériel, oui. Quand on a de l'argent, on peut mettre du oui. matériel. Le problème, c'est qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, il y a la formation du personnel, mais également l'achat du matériel. Lors de la première vague... Il y avait tellement de demandes au niveau mondial de matériel de respiration artificielle, donc de ouais. respirateurs, de ventilateurs, que les fabricants n'ont pas pu en fabriquer à la hauteur de la demande. Donc on avait beau commander, mm-hmm. beau sortir de l'argent pour payer tout ce matériel, ouais. il n'y avait pas de matériel sur le marché.
Et on l'a bien vu, c'est pas qu'une question d'argent. On l'a vu avec la crise du masque. Dans votre livre, vous dites « on est tranquille, on a suffisamment de masques ». Parce que c'était déjà une problématique, on sentait bien qu'il allait avoir ce souci. Aujourd'hui, voilà, nous sommes masqués, parce que c'est un geste barrière. C'est très Tout important, ces gestes barrières.
Bien sûr, les gestes barrières, les gestes simples, hein, puisque maintenant, on a quand même bien compris là, comment se transmettait le virus, que ce soit par les grosses gouttelettes, les petites gouttelettes, donc l'aérosolisation, et puis en manuporté. Donc le fait de se laver les mains, ne serait-ce qu'avec du savon, et de l'eau claire de façon régulière, et de porter un masque homologué, ça diminue fortement les risques de transmission.
Et pourtant, vous comme moi, cher professeur Karim Lacombe, vous avez eu le Covid.
Absolument.
Et pourtant, on fait attention à nos gestes, ça veut dire qu'il y a des moments d'inattention. À quel moment, comment on peut attraper, malgré tout, malgré cette vigilance accrue, comment on attrape ce virus, à quel moment, est-ce qu'on arrive justement à savoir, à tracer, parce que ça c'est un mot aussi que l'on voit très souvent dans les indications, tracer, comment on trace un Covid ?
Eh bien, le fait, alors moi pour vous donner une illustration assez pragmatique de ce que vous venez de dire. Moi, j'ai été infectée par une amie qui était asymptomatique. Mmh. Une amie qui fait le même métier que moi, qui porte tout le temps le masque. Mmh. Et on s'est retrouvés, on a passé quelques heures, on a dîné ensemble et on a enlevé le masque pour dîner. Ouais. Et c'est cette amie qui m'a contaminée asymptomatique à l'occasion d'un dîner à deux.
Parce
La chose
faut,
très
faut
positive...
Dire peut-être à ceux qui nous écoutent, quand on dîne à table... On parle et donc on envoie finalement un aérosol contaminé.
Tout à fait, absolument.
Sans s'en apercevoir parce que c'est des petites particules tellement infimes qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu.
Exactement, et en particulier quand on dîne dans un espace clos. Ouais. Que ce soit les petits déjeuners, les repas de midi, le soir, dans un espace clos, on enlève le masque. D'où d'ailleurs le fait que les bars et les restaurants ont été identifiés comme une source importante de contamination.
Qu'on dans soutient l'enquête d'ailleurs parce corps, que voilà, ils sont les premiers à souffrir finalement.
Bien sûr, on a une pensée très forte de... Mais c'est vrai que ça touche de plein fouet de grands secteurs de notre économie. Mais qui en est responsable ? Ce ne sont pas ceux qui ferment les bars ou les restaurants ou ceux qui identifient les bars et les restaurants comme étant des lieux de contamination. Le responsable, c'est le virus. Oui. Et pour l'instant, il est compliqué
c'est
de...
C'est une vérité qu'il est évidemment bon de rappeler parce que on est dans une période très compliquée. Et en fait, c'est que cette pandémie n'est pas terminée. Et on le voit avec le nombre de personnes infectées. On espérait que ce chiffre diminue. Il a diminué d'ailleurs un moment. Et là, il est en train de repartir à la hausse. Et en plus, avec cette nouvelle complexité, c'est la mutation de ce virus qui nous vient du Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, professeur Karim Lacombe, de cette mutation qui... En même temps, arrive avec une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on nous dit il y a un vaccin et on va en parler avec vous, et en même temps on nous dit il y a des mutations, donc ça c'est très anxiogène ça.
Alors il faut savoir pour remettre un peu de raison dans tout ça, il faut savoir qu'un virus mute tout le temps, en particulier quand il est au contact avec l'être humain, il essaie de s'échapper des défenses immunitaires de l'hôte, et donc il va muter. Souvent, ce sont des petites mutations. Les coronavirus, de façon globale, sont une famille de virus qui sont extrêmement stables. Et c'est vrai que ce SARS-CoV-2, qui est responsable de la COVID-19, est un virus qui a très peu muté depuis qu'il a été mis en évidence il y a à peu près un an.
Malgré le fait d'avoir voyagé à travers le monde.
Malgré le fait qu'il ait voyagé, qu'il soit passé de personne en personne avec des patrimoine génétique différent, le virus a très peu muté. Il s'avère que ce variant, donc c'est pas vraiment un deuxième virus, c'est un variant, parce qu'en fait, il n'est pas pas très différent du premier de la souche originelle. Ce qui pose question, c'est que les mutations qui sont apparues sont des mutations au niveau de cette protéine qui s'attache à la surface des cellules et qui pénètre dans notre rhinopharynx. Mmh. Et ces mutations, peut-être, pour l'instant c'est encore une supposition, feraient en sorte que le virus s'accroche mieux, on va dire, sur les cellules du rhinopharynx. Et donc, peut-être rentrerait plus facilement à l'intérieur des cellules. Mmh. Et pourquoi ce variant est devenu majoritaire, en particulier à Londres, eh bien, c'est aussi contemporain de la levée des mesures barrières qui était la fermeture des bars, des restaurants, des pubs. Mmh. Ils ont été rouverts et à partir de là, on a vu une reprise exponentielle de la transmission du virus. Et ce variant-là, eh bien, parce que c'était le variant qui se transmettait déjà pas mal dans le sud de Londres. Donc, on va dire qu'il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos du virus. Hein, quand on dit c'est hors de contrôle, l'épidémie est en train d'exploser en Angleterre, c'est aussi parce que le Premier ministre n'était pas tellement pour les restrictions. On a bien vu, hein, l'Angleterre ont réagi très vite, c'est pour ça qu'ils ont un grand nombre de morts. Et il y a de nouveau eu ouverture des bars et des restaurants à un moment où l'épidémie n'était pas contrôlée. Pour finir sur ce variant, parce que je crois que c'est très important vraiment de ne pas céder à la panique, on n'a pas du tout montré à ce jour que les gens étaient plus malades, les personnes malades avaient plus de gravité, de signes graves, aller plus en hospitalisation ou en réanimation, ça c'est quand même très rassurant. Et l'autre chose, c'est que le vaccin qui va arriver permet de prévenir ce type de transmission du virus. Donc, on doit être pour l'instant rassuré.
Alors, justement, on parle de Londres et du Royaume-Uni. On sait bien qu'il y a une période de Brexit, évidemment, qui peut s'ajouter aussi à une difficulté de gestion de la crise, parce qu'on voit bien que l'Agence européenne des médicaments, par contre, a autorisé ce lundi le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid et qui a une décision finalement européenne et qu'on va pouvoir finalement commencer tous ensemble cette vaccination. Bien sûr que chaque pays va ensuite avoir les modalités propres à chaque pays, mais en tout cas c'est un consensus européen là.
Moi je trouve que c'est une image très forte de dire voilà, l'Agence européenne du médicament donne l'autorisation d'utilisation de ce nouveau vaccin. La France, qui en général met un peu de temps à analyser les demandes d'autorisation, est allée extrêmement vite et dans la lignée de tous nos collègues européens, on va démarrer la vaccination dimanche, exactement comme dans les autres pays européens. Et je trouve que c'est un signal très fort de la cohésion de l'Europe et d'une réponse enfin unie de l'Europe vis-à-vis
surtout
de la pandémie.
Surtout dans le cadre d'une pandémie, parce qu'on voit bien qu'elle touche les pays dans leur ensemble, et que si on a une réponse qui est en même temps, elle sera d'autant plus forte, et sans doute, vous qui êtes infectiologue, peut-être avec plus d'effets.
Absolument, et c'est sûr que si on arrive à unifier les mesures que l'on prend tous ensemble contre la Covid-19, on sera beaucoup plus fort. On est toujours plus fort quand on est plusieurs que quand on est tout seul, surtout à combattre une pandémie de cet impact-là.
Alors, bien sûr, la question de la vaccination est au cœur de toutes les discussions actuellement. Vaccin obligatoire, pas obligatoire. En tout cas, qu'est-ce qu'on d'abord, avant de parler de cela, les attentes d'un vaccin ? Parce que c'est pas le premier vaccin. On sait que la vaccination a sauvé des vies dans beaucoup de maladies, que notamment, je sais que c'est aussi une de vos spécialités, la question du sida et du HIV. Ce vaccin, on l'attend, on l'a toujours pas. Et on sait très bien que quand un vaccin arrive, c'est quand même une avancée de la recherche très importante.
Absolument. L'une des causes majeures de décès au 18e, 19e siècle, c'était les maladies infectieuses. Et ce qui réduisait de façon considérable l'espérance de vie. C'est à partir du moment où on a pu juguler les transmissions d'agents infectieux, en particulier grâce à la vaccination, qu'on a vu un bond en avant énorme en termes de développement économique. On maîtrise les maladies infectieuses, on a une progression économique importante. Donc, la vaccination est vraiment un acte médical majeur dans l'amélioration de la santé des populations. Il y a quelques maladies comme la variole, par exemple, hein, qui ont disparu de la surface de la Terre grâce à la vaccination. D'autres qui sont bien contrôlées, ou voire en voie d'éradication, comme la poliomyélite. Et puis, il y a d'autres maladies, parce que la couverture vaccinale n'est pas suffisante, qui reviennent, comme par exemple la rougeole. Et ce n'est pas normal d'attraper la rougeole en France.
Non seulement ce n'est pas normal, professeur Lacombe, mais c'est surtout dangereux, parce que ça a des conséquences. On ne le sait pas. On pense que rougeole égale petite maladie virale banale. Or, elle a des conséquences.
Bien sûr, la rougeole. Alors déjà, la rougeole, c'est une cause de mortalité chez les nourrissons, qui est importante dans les pays en développement. Moins en France, parce qu'heureusement, malgré tout, la rougeole est tout de même, le vaccin, pardon, est tout de même assez répandu. Enfin, les nourrissons et les jeunes enfants. Mais il y a tout de même, dans toute maladie infectieuse, des risques de complications. Et par exemple, avec la rougeole, les adultes peuvent décéder de pneumonie rougeoleuse. Mmh. Il y a des complications à type d'encéphalite. Donc non, ce n'est pas une maladie banale. Et la Covid-19, eh bien, on le voit bien, ce n'est pas non plus une maladie banale, ce n'est pas une grippe. Ouais. Et c'est un agent qui est très transmissible.
En quoi elle est différente de la grippe, professeur Karine Lacombe ? Parce que la grippe tue aussi chaque année. Et on l'a souvent comparé. On a comparé Covid et grippe. Et d'ailleurs, je me dis que peut-être que les chiffres de la grippe sont moins importants cette année, puisqu'on a eu peut-être multiplié les gestes barrières qui, eux aussi,
tout à fait,
fonctionnent bien avec la surveillance, enfin en tout cas l'arrêt d'une grippe. Comment vous comparez, vous, grippe et Covid ?
Alors moi, je ne les compare pas du tout. Le seul élément de comparaison, c'est le mode de transmission, puisque les deux se transmettent à peu près de la même façon. Mais en revanche, ce sont deux virus complètement différents qui ne donnent pas du tout les mêmes maladies.
Ouais.
On voit là justement que les gestes barrières servent à quelque chose.
Ouais.
Par exemple, la grippe, on n'a pas vu dans l'hémisphère sud d'épidémie de grippe cette année. Pour l'instant, dans l'hémisphère nord, on n'en a quasiment pas. Et là où on a vu également un impact très important du masque ou du lavage de mains, c'est sur les virus responsables des gastro-entérites, puisqu'il n'y a quasiment pas de gastro-entérites. Et encore mieux, le virus qui est responsable de la bronchiolite chez le nourrisson, puisqu'il n'y a quasi aucun cas de bronchiolite actuellement chez les nourrissons, alors que c'est une période en général propice.
Ça veut dire que finalement, ce masque, ce lavage des mains, ça resteront des gestes que l'on va continuer malgré tout après.
Ça,
une
c'est
fois
la grande
que
question. Ça, c'est la grande question. C'est vrai que si on prend l'exemple de la bronchiolite, c'est l'adulte qui transmet le virus de la bronchiolite qui s'appelle le VRS au nourrisson, et le nourrisson est malade à cause de l'adulte. Donc l'adulte porte le masque, le nourrisson est protégé. Donc c'est vrai que ça interroge notre culture. On sait qu'en Asie, par exemple, le port du masque qui est beaucoup plus fréquent. Est-ce que ça va devenir une espèce de norme dans les pays occidentaux ? Je ne sais pas. Je crois qu'il est encore un peu tôt pour le dire. Après, c'est tout le temps une balance entre le bénéfice de le porter, la praticabilité à long terme, le risque,
bien
etc.
Sûr. Enfin, c'est certain qu'on espère qu'à long terme, en tout cas à moyen terme ou à court terme même, on retirera ce petit bout de tissu sur notre visage pour pouvoir revoir les sourires de manière plus évidente. Mais revenons à notre vaccin. Ce vaccin, d'abord, c'est une chance, finalement, que l'on ait pu. On avait vu ça avec le professeur Gilbert Deray, que ce n'est pas une découverte qui date d'hier, que de nombreux travaux ont été menés sur ce type de vaccin, mais que ça n'avait pas marché sur les autres virus et que, par chance, ça fonctionne bien avec le virus du Covid.
Absolument. C'est vrai que la technologie vaccinale, cette technologie d'ARN messager, a mis très longtemps à être développée, a mis une dizaine d'années. Ça fait plus de 10 ans que des scientifiques travaillent sur cette technologie vaccinale, qui d'ailleurs était initialement destinée plutôt à l'oncologie. Et puis, parce qu'elle a enfin été mise au point, eh bien, la pandémie est arrivée. Ils ont pu développer très vite un vaccin contre le coronavirus.
Alors, c'est vrai qu'il
y a eu des essais avec d'autres virus et ça n'a pas marché. Mmh. Et puis, avec le coronavirus, ça a marché. On va dire que c'est une chance. Ouais. Il y a une exploitation d'une technologie vaccinale qui a été éprouvée et qui a été mise à disposition du coronavirus. Et c'est une excellente nouvelle.
Alors, vaccin, quand on dit vaccin, évidemment, il y a toujours cette crainte des effets secondaires. Est-ce qu'on sait à peu près aujourd'hui quels pourraient être ces effets secondaires ?
Oui, on commence quand même à beaucoup mieux les connaître. Il faut quand même savoir qu'il y a maintenant plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été vaccinées à travers le monde, en particulier aux États-Unis. On avait déjà des résultats des phases 1 et 2 du vaccin, que ce soit le Pfizer ou le Moderna, et puis on a eu les résultats de phase 3, c'est-à-dire sur un plus grand nombre de personnes, plusieurs dizaines de milliers de personnes, assez récemment. Mmh. Les effets secondaires qui ont été observés sont des effets secondaires attendus avec un vaccin qui est très immunogène, c'est-à-dire qui va entraîner beaucoup d'une fabrication de beaucoup d'anticorps. C'est un peu de fièvre, c'est une douleur au point d'injection, ça peut être un peu de douleur musculaire, puis en général, ça dure une journée et ça passe. C'est le cas avec beaucoup d'autres vaccins. Par exemple, le vaccin de la rougeole, le vaccin de la fièvre jaune entraîne ce même type d'effets secondaires. Le vaccin contre le papillomavirus est un vaccin qui est assez douloureux. Le vaccin contre la méningite chez l'enfant, chez le nourrisson, est un vaccin qui est très douloureux. Et donc, on donne des médicaments pour ne pas avoir mal. Et puis, voilà. Les effets secondaires des vaccins, de façon générale, sont extrêmement, extrêmement rares. Et on a vu deux cas d'allergie avec ce vaccin-là, avec le vaccin Pfizer en Angleterre. Donc, tout de suite, on a commencé à s'agiter.
C'était quel type d'allergie ?
Alors, en fait, c'était des allergies généralisées, c'est-à-dire une difficulté à respirer, de la fièvre, une rougeur. Mais il faut savoir que c'était chez des personnes qui étaient très, très, très allergiques par ailleurs et qui portaient déjà en continu des médicaments sur elles pour prévenir une allergie qui pouvait arriver à n'importe quel moment.
Donc, d'où le questionnaire important.
Exactement. La visite médicale avant d'injecter. Mais c'est comme tous les vaccins. Le fait de vacciner n'est jamais un geste anodin. Il faut poser une indication vaccinale et être sûr que la personne qui reçoit le vaccin est le plus à même de la recevoir dans les meilleures conditions. Donc, on va dire que c'est une attitude normale quand on délivre un vaccin.
Alors, à partir du 27 décembre, comme partout en Europe, cette vaccination va pouvoir commencer en France. Les premiers publics choisis, ce sont les personnes âgées, notamment dans les EHPAD. Ensuite, les soignants. Vous pensez que, justement, le fait de le faire de cette manière progressive, c'est une bonne chose ?
Alors, on le fait de façon progressive parce qu'on n'a pas assez de doses pour tout le monde. Donc, il faut faire une hiérarchie. Pour l'instant, qui meurt de la Covid-19 ? C'est beaucoup les personnes de plus de 80 ans. En particulier, celles qui sont institutionnalisées parce que souvent, on ne les met pas en réanimation. Donc, on a quand même vu en mars-avril le nombre de personnes décédées en EHPAD qui n'ont même pas été hospitalisées. Donc, ça me semble raisonnable, quand on a un nombre de doses contraint, de commencer par celles qui sont le plus à risque de décéder, ainsi que les personnes qui s'en occupent et qui ont des facteurs de risque
de faire des formes graves. C'est une bonne chose, c'est un bon signe envoyé à l'humanité.
Exactement.
Que de s'occuper des personnes âgées.
Tout à fait.
Dont on ne s'est pas tellement bien occupé à la première vague du Covid, puisqu'on a dit... On a entendu beaucoup, ça touche les personnes âgées, comme si, finalement, c'était moins grave, si on enlevait un degré de gravité en moins. Aujourd'hui, on commence par ces personnes âgées, c'est un bon signe.
Bien sûr, je pense que qu'on est une société de solidarité où on s'occupe de nos anciens et des plus fragiles d'entre nous. Et je trouve effectivement que c'est un très bon signal d'une société solidaire.
Vaccin et anticorps, c'est une question qui m'a été posée et je n'ai pas su répondre. Mais bien sûr, je pense que vous êtes la personne idoine. Vaccin et anticorps, ça veut dire qu'on a eu cette maladie, on a développé des anticorps. Est-ce qu'on peut se faire vacciner ?
Absolument. Donc en fait, le problème des anticorps que l'on développe après avoir été malade, c'est qu'on ne sait pas quelle durée ils vont avoir. Et on a montré, il y a maintenant des publications qui apporte la preuve que les anticorps post-vaccinaux sont fabriqués en quantité plus élevée que des anticorps que l'on fabrique après avoir été malade. Donc, on sait quand même de la cinétique, c'est-à-dire la durée de vie des anticorps, que quand on en a beaucoup, beaucoup au début, même s'ils baissent dans le temps, ils vont baisser moins vite que quand on en a moins. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de sérologie avant d'être vacciné, et que si on a fait un Covid récent, on n'est pas prioritaire pour la toute première vague de vaccination, mais on peut se faire vacciner. Alors, il semblerait que la France ait retenu un délai de 3 mois entre une infection et la vaccination. D'accord. Aux États-Unis, par exemple, c'est 1 mois. En Angleterre, c'est 3 mois. Mais, ou le contraire, peut-être l'Angleterre un mois, ça dit 3 mois, mais en tout cas...
Voilà. Et les anticorps liés à la maladie, donc en réaction à la maladie, sont compatibles.
Absolument. Ah oui, peuvent, oui, bien sûr.
Donc il n'y a pas de mauvaises interférences entre les deux.
Pas du tout, aucune.
Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce que... Une fois qu'on a eu la maladie, on sait très bien que, comme vous l'avez dit, hein, ces anticorps peuvent diminuer. On ne sait pas jusqu'à quel point on ne peut pas, à un moment donné, être réinfecté. Et d'ailleurs, ça me permet de vous poser cette question dont tout le monde se pose. Souvent, on nous dit que quand on l'a pour la deuxième fois, c'est parfois plus grave que la première.
Oui, c'est vrai. On s'est aperçu que c'est très souvent la deuxième infection pour les quelques personnes, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais il y en a, donc qui développent une deuxième infection, c'est en général avec plus de symptômes que la première. Pas toujours, hein, certains font encore des infections asymptomatiques, mais on a vu effectivement des cas plus graves en deuxième infection qu'à l'occasion de la première.
On parle aussi beaucoup de la Covid longue ou du Covid long, hein, si on veut féminiser ou pas le nom de cette maladie. Est-ce que juste ce vaccin va pouvoir peut-être régler ces problèmes de Covid long ou pas ?
On ne sait pas. C'est-à-dire, c'est trop tôt pour le dire, absolument. Là, c'est trop tôt. On ne sait pas d'ailleurs vraiment ce que c'est que cette entité nosologique, cette entité clinique de Covid long, parce que on ne retrouve jamais de virus. Quand on fait un bilan sanguin, dans la très grosse majorité des cas, il est normal. Quand on fait un scanner chez les personnes qui ont l'impression d'avoir des troubles respiratoires, eh bien, il n'y a rien au scanner. Donc, on a vraiment du mal à mettre un substrat organique sur ce Covid long. Ce qui ne veut pas dire que c'est une maladie psychologique.
C'est
pas
un petit peu comme la fatigue. Chronologique où on dit comme on ne sait pas d'où ça vient, longtemps on ne l'a pas considéré.
Le syndrome de fatigue chronique, en fait, oui, probablement qu'il y a un substratum organique, mais que l'on n'a pas encore trouvé.
Mais en tout cas,
c'est le cas du Covid long.
Ce que vous nous dites, professeur Karine Lacombe, c'est en fait, on peut avoir ce Covid long, mais en revanche, le virus n'est plus là et il n'est plus détectable en tout cas.
Tout à fait. Il n'est jamais dans les cas de Covid long, tels que vous les décrivez, on ne retrouve pas du
ça
tout de virus,
COVID
pas
long,
de syndrome inflammatoire.
On entend une grande fatigue, une toux ou une douleur respiratoire, enfin une difficulté à marcher quelques mètres. On a aussi
des difficultés de concentration, des troubles du sommeil.
Le goût et l'odorat qui ne retrouvent pas au bout d'un certain temps. Tout ça, c'est en fait ces signes qui perdurent dans le temps. Pour certains, ça disparaît au bout de quelques semaines. Et pour d'autres, ça reste en fait. Et c'est très, très décrit d'un point de vue clinique. Hein,
bien sûr, c'est très invalidant d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont un Covid long et qui ne sont pas retournées au travail depuis des mois et des mois. Donc non, la Covid-19, ce n'est pas une maladie banale. Ce n'est pas une maladie qu'il faut prendre à la légère. Il y a eu beaucoup de décès. Il y a également beaucoup de séquelles.
Professeur Karine Lacombe, je rappelle votre livre « La médecin » paru chez Stock, une infectiologue au temps du corona, un livre aussi illustré par Fiamma Luzzatti. J'ai envie de vous demander, même si d'abord c'est très, très agréable à lire, même si on parle de quelque chose de très douloureux, d'abord parce que ça raconte finalement ce qu'on a tous vécu, et vous au premier chef avec les soignants dans le milieu hospitalier, on sait combien ça a été difficile, et vraiment un plus grand hommage à toutes celles et tous ceux qui ont tenu à bout de bras l'hôpital. J'ai envie de vous dire, mais vous allez forcément nous sortir un deuxième tome.
Ah,
parce qu'on n'est pas prêt de terminer. On voit bien que finalement, c'est ce que je me suis dit en le lisant. Je me suis dit, mais finalement, il y a une suite. Est-ce qu'elle va être positive ou pas ?
Et c'est vrai. Alors, c'est la première fois qu'on me pose la question. Ouais. Alors, on a déjà fait un blog que l'on alimente régulièrement, 2-3 fois par mois, avec des textes sur ce qui se passe maintenant, des dessins de Fiamma. Donc, je vous invite à y aller si vous voulez avoir un petit peu la suite de tout ça. Alors après, est-ce qu'il va y avoir un deuxième tome ? Je ne sais pas. On va voir en fonction de comment on le sent, si on pense avoir des choses à raconter, à partager, surtout avec les lecteurs du premier tome, je ne sais pas encore.
Le retour justement sur ce livre par vos lecteurs et lectrices.
Eh bien, j'ai eu énormément de retours très positifs. Alors peut-être que ceux qui ont un avis négatif non plus ne le transmettent pas, ouais. Je ne sais pas. Mais on a, j'ai beaucoup de collègues, beaucoup de médecins l'ont acheté. Ouais. Ce qui veut dire aussi qu'on parle à tout le monde, que le livre est juste dans son, voilà, exactement dans la description médicale. Et puis beaucoup de personnes qui ne travaillent pas dans le milieu médical nous ont dit, mais on entendait comment ça se passait, mais en fait le fait de le lire, on a l'impression d'y être et de le vivre et on comprend maintenant beaucoup mieux pourquoi ça a été si difficile.
Là, on est à quelques jours de la fin de cette année 2020 qui aura été très difficile et personne n'imaginait, comme vous le dites au début de votre livre, qu'on allait vivre cette vie si tourmentée, cette si bouleversée, cette année 2020 très, très difficile. Comment vous voyez l'année 2021, professeur Karine Lacombe, même si, évidemment, quand on est médecin et puis scientifique, on est vraiment dans la rigueur aussi des chiffres et des études. Et voilà. Mais est-ce qu'on a un espoir, justement, ou pas ?
Alors, j'ai l'habitude de dire, là, depuis quelques semaines, 2021, année vaccinale. Ouais. J'y crois vraiment beaucoup. Mm-hmm. Je sais qu'il y a les sondages qui disent que beaucoup de Français sont contre la vaccination. Et je pense que les Français ne sont pas contre la vaccination. Les Français ont besoin d'informations avant de se faire vacciner. C'est pour ça que ce n'est pas une bonne chose de rendre le vaccin obligatoire. Donc, heureusement, ça ne va pas être fait. Il faut que l'on continue à être pédagogue, à faire passer de la juste information. Et puis, il faut continuer à être vigilant également, mettre en place les bons outils de surveillance pour récupérer, pour collecter les données d'efficacité, mais aussi de tolérance des vaccins à travers le monde. Et je suis confiante pour que la population comprenne quel est le bien que va leur apporter ces vaccins, un retour progressif vers la vie économique normale. Ouais. Et peut-être qu'après l'été, on sera dans une situation où on pourra dire « on souffle
ouais. ». Donc encore une année 2021 difficile, parce que de toute façon, cette vaccination, on va pouvoir vacciner tout le monde d'un coup, d'un seul, parce qu'il faut, vous l'avez dit tout à l'heure,
oui.
Il faut des doses de
vaccinales. D'ici l'été, je pense que d'ici l'été, quand même, une bonne partie sera vaccinée.
Pour monsieur, madame, tout le monde qui s'apprête à fêter Noël et le jour de l'an.
C'est loin, c'est ça.
C'est peut-être un peu loin, mais oui. En tout cas, ce que l'on peut se dire, c'est qu'on est en bonne voie. En tout cas,
je pense que si
2021 est une année vaccinale, c'est peut-être une année où on finira par sortir de cette crise ?
Je pense vraiment qu'on va sortir de cette crise. Je suis d'un naturel optimiste, mais vraiment là, pour 2021, j'ai un optimisme assez certain. Voilà, non, je pense qu'on va y arriver, que le vaccin va vraiment changer la face des choses et qu'à l'automne, peut-être que l'année prochaine, à cette période-là, on portera peut-être plus de masques, ou en tout cas, on pourra dire que l'épidémie est contrôlée et que petit à petit, on pourra laisser tomber les gestes barrières.
Merci infiniment, professeur Karine Lacombe, d'être venue, parce que je sais que votre emploi du temps est extrêmement chargé, que l'hôpital Saint-Antoine vous attend juste dans la minute qui suit. Merci d'être venue, parce que je crois qu'il faut une parole forte et il faut aussi une parole d'espoir. Et quand elle vient en plus d'une parole scientifique, je pense qu'elle est d'autant plus importante. Je conseille donc ce livre, La médecin, est paru chez Stock, un livre illustré, voilà, magnifiquement illustré, qui raconte finalement votre parcours, votre vie au quotidien, cette vie qui a été si difficile. Et alors, à travers vous, on veut vraiment, vraiment encore applaudir les soignants et tout le personnel hospitalier qui a mis toute son âme et toute son énergie pour aller à l'encontre de cette crise qui nous a tous, évidemment, tous ébranlés. Donc, évidemment, et on souhaite avec vous que 2021 soit non seulement une année vaccinale, mais une année où on puisse s'en sortir de cette crise du Covid. Merci infiniment à vous.
Merci pour votre invitation.
Quant à vous, chers auditeurs, bien sûr, je vous souhaite une excellente santé. Et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières.